On est donc sur le plateau des oreilles loin du front et viennent de se joindre à nous dans le studio quatre des salariés grévistes de Fabio Lucci. Pour faire un raccourci, vous allez nous expliquer que c'est pas tout à fait Fabio Lucci, votre employeur. Alors il y a l'EIPAP et Edouard qui se sont mis au micro. Peut-être qu'on peut dire, on peut commencer par expliquer vous travaillez pour la sécurité. Dans un magasin Fabio Lucci qui se trouve porte de Pantin, mais qui est votre employeur ? Parce qu'on a c'est assez difficile de comprendre comment ça se passe.
Ben en fait, je vais vous raconter la genèse de notre parcours, parce que il y a ASP qui est le donneur d'ordre, donc ASP c'est lui le principal donneur d'ordre. C'est ASP qui a gagné le marché avec Fabio Lucci. ASP sous-traite avec Teranga Sécurité. En ce moment-là, Teranga Sécurité nous a pris comme des agents de sécurité. Donc notre premier contrat, c'était Teranga Sécurité avec, en l'occurrence, M. Ndiaye, As Ndiaye. Donc c'était notre premier employeur. À un bon moment donné, il ne pouvait plus continuer, soit disant que le taux qu'on lui donnait ne lui permettait pas à payer les agents et qui sortait pour payer ses charges, tout ça. Bon, voilà. Ensuite, il a lâché. Ensuite, il y a un autre sous-traitant qui se nomme MPS, en l'occurrence M. Bembarka, dont son siège se trouve à Gouzainville. Et ce sous-traitant MPS, il ne nous a pas pris directement. Il a sous-traité encore un autre sous-traitant nommé ASI, dont la gérante se nommait Madame Kenish. Cette dernière avait pris le marché pendant 2 mois. Ensuite, elle a perdu le marché. Après, on a pris encore un autre sous-traitant. Ça veut dire que c'est des cascades en cascade. Se nommait FGPS, dont le siège se trouve à Val-de-Fontenay. Et le principal interlocuteur, c'était M. Blay. Et ce dernier aussi nous a fait un contrat. Et quand nous avons fait un contrat, au lieu de prendre nos anciennetés, donc, il nous a pris à zéro. Ça a dit que depuis Kateranga, j'avais un contrat. Donc, il a terminé le contrat. Il ne m'a pas fait un licenciement. Il ne m'a rien fait. J'ai perdu mon ancienneté. Après, MPS a pris le contrat. Ou là, MPS m'a fait un contrat. Il a sous-traité ASI. ASI a fait un contrat de 2 mois. Il a lâché le contrat. Il a donné le contrat à FGPS. À chaque fois qu'il y a un nouveau sous-traitant, je perds mon ancienneté. Et ce dernier, FGPS, me faisait un contrat de 151 heures, dont mon bulletin de paie se trouve à 75 heures, mais il me payait le reste espèce, voilà, et le reste en chèque. Donc, à un moment donné, le contrat de travail et les bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais quand je lui venais dire, monsieur, non seulement ce n'était pas conforme, et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je ne peux pas vous déclarer 151 heures sur la fiche de paye. Vous avez un contrat de 151 heures, mais sur la fiche de paye, je vous mets 75 heures. En l'occurrence, M. Blay. Donc, il me dit, estime-toi heureux parce que toi, tu as un contrat, parce que tu as des papiers. Donc, pour ne pas aller trop loin, j'ai dit, ce n'est pas grave. Après, M. Blay, FGPS, à un moment donné, il a lâché son ami, a dit que son collaborateur, M. Armand, il a cherché un autre sous-traitant, se nommé GSP, dont la gérante se nommait Mme Zélie. Cette dernière aussi a pris le marché pendant 2 mois. Elle ne pouvait plus continuer, faute de provisions. Elle ne pouvait plus continuer. Après, il y avait des chèques revenus impayés. Je vous donne un exemple, un collègue de Belleville. Depuis le mois de décembre, il a 2 chèques revenus impayés. Le chèque du mois de décembre, 1875 euros, il est avec nous, photocopié, revenu impayé. Mois de janvier, chèque aussi impayé. Mois de février, il n'a pas été payé. Il réclame, on lui dit, tu la fermes, sinon on te met dehors. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'a pas de papier. Donc, après, GSP ne pouvait plus continuer. Ils ont pris encore un autre sous-traitant, et c'était le dernier sous-traitant, FIPS. Donc, de ASP jusqu'au SPIPS, il y a 7 sous-traitants. C'est-à-dire que c'est de cascade en cascade. Et chacun veut manger la part du gâteau. Qu'est-ce qui va rester? Que des miettes pour nous qui travaillons, les agents de sécurité. Donc, ce dernier veut nous payer 6,50 €. Et c'est en ce moment-là que la grève a commencé. Donc, après, si on va continuer, je vais vous parler de ce qui va continuer tout à l'heure.
Parce que, donc on voit bien, il y a eu sept acteurs différents dans ces dernières années. Mais on est, donc, il y a Fabio Lucci et il y a 3 sous-traitants qui arrivent en cascade avant de vous voir apparaître, vous, comme salarié. C'est une autre particularité, c'est aussi pour ça que vous êtes en grève en ce moment, c'est qu'une partie d'entre vous n'ont pas de papier, mais... Ils ont un contrat de travail. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a un contrat de travail, mais les gens n'ont pas de papier.
Oui, c'est en fait, de toute façon, parmi nous, comme vous venez de dire, les agents de sécurité qui n'ont pas de papier, ça fait 4 ans au moins qu'ils travaillent avec ASP. Et c'est un truc à faire révéler du fait qu'en ce moment, tous les travailleurs ont droit d'être régularisé selon le formulaire du 7 janvier qui vient de sortir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que en ce moment ils sont en relation avec la nouvelle génération d'immigrés qui ont travaillé, qui ont fait des études et qui sont prêts à aller de l'avant pour changer carrément les donnes. C'est pour cela qu'on s'est levé, nous, agents de sécurité de Fabio Lucci en tant que donneur d'ordre aussi, a son mot à dire. On a des contrats. C'est vrai que ce n'était pas des contrats en bon et due forme. On les demande, les contrats en bon et due forme. On les demande aussi, les fiches de paye, qu'ils soient régularisés sur les normes correctes, 151 heures, et que les salaires aussi soient sur les bonnes normes. C'est seulement ça qu'on les demande.
Alors concrètement, on peut parler, parce que ce mouvement a surpris un petit peu... a été assez surprenant. Il y avait eu quelques semaines avant ce qui avait pu se passer sur le site de Grande Armée. C'était un restaurant. Mais ça a surpris un peu les gens de voir des gens qui disent « Bah voilà, nous, on n'a pas de papier, mais on a un employeur, on n'est pas payé. » Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment s'est passée cette mobilisation ?
Cette mobilisation est partie du fait qu'on réclamait nos salaires. Mais suivant ça, quand on réclamait nos salaires, ils voulaient diminuer les salaires au taux de 6,50 €. Alors qu'on était payé 7,50 €. Parmi nous, on s'est levé en citant Lei, Jabi, moi. On est allé voir les gars de la société. À la réunion, on les a fait comprendre qu'on ne peut pas prendre 6,50 €. Mais ils sont vraiment débiles de comprendre que vraiment on en a marre ça, de tout ça. Mais ils ne voulaient pas céder. Ils ne voulaient pas céder et voilà quoi. Nous, le lendemain, on a appelé ASP. Le même jour même, on a appelé ASP, on n'a pas eu de nouvelles. Le lendemain aussi, moi-même, je les ai appelés ASP. J'ai appelé ASP et ils n'ont pas donné de nouvelles aussi. Le même jour, mes amis, moi je n'étais pas présent, mais mes amis ont décrété la grève et le magasin même a appelé ASP pour régulariser. Mais quand ils ont voulu régulariser les salaires, ils sont venus avec des chèques de 6,50 €. Comme on ne voulait pas prendre les chèques de 6,50 €, ils nous ont menacés et ils nous ont dit de déguerpir, de quitter les lieux parce qu'ils ne vont plus travailler avec nous parce que chaque fois, c'est nous qui râlons. Et ils croient que ça, ce n'est pas normal, quoi. C'est en ce moment que c'est parti. Et voilà, parmi nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sans-papiers. On les a fait comprendre qu'ils ont des droits, même si sans sa papier, ils travaillent.
Tout
travail mérite salaire. Et voilà, de ce fait, ils peuvent être régularisés par leur contrat de travail. Donc, c'est vrai que ça pose des problèmes. Il y a des gens qui nous interpellent, vous n'avez pas peur d'être expulsés, tout ça. Mais bof, on a déjà trop galéré, quoi. On a déjà trop galéré du fait que ça fait 4 ans, 5 ans, on travaille. On ne prend pas l'argent d'autrui, on gagne notre sueur. Donc voilà quoi. Moi, je crois que c'est un truc qu'on doit dépasser en ce moment. On n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour vendre la drogue ou ces petite connerie là, on est là pour travailler et au moins respecter les gens qui travaillent. Nous, c'est ce qu'on demande aux employeurs qui nous emploient à ce moment-là.
Juste pour une précision, les employeurs des différentes boîtes que vous avez mentionnées, en fait, ce sont des grandes entreprises, des petites entreprises ou...
C'est ASP qui a la grande... ASP, c'est une grande entreprise. Teranga, c'est une petite entreprise. Mais bon, quand on négocie un contrat, nous, ce n'est pas notre problème.
Oui, non.
Donc, ASP, on les paye. ASP a gagné le marché avec 23,50 € de l'heure avec Fabio Lucci. Imaginez 23,50 € de l'heure.
C'est un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros le mois.
6,50 € de l'heure. Nous, on paye 6,50 €. Pourquoi on s'est levé, on a dit non? Parce que ce dernier sous-traitant, ce sont des sociétés. Hein, donc, ils ont leur marge de sortie, leur régime de commerce, tout ça. Donc, voilà. Donc, après moi, quelqu'un qui ouvre une boîte de sécurité, donc, doit doter certaines fonds de roulement pour payer tes agents, tout ça. Puis voilà. Mais ce dernier sous-traitant, FIPS, non seulement, comment se fait-il? Il y a un nouveau sous-traitant. Moi, je me rappelle, j'étais à Fabio de Pantin, je travaillais, et vers 17h, mon portable sonne. Allô, oui, c'est M. Corré, donc je suis le nouveau gérant. Donc c'est nous qui avons repris maintenant le marché, c'est nous qui sommes maintenant vos nouveaux employeurs. Comme ça! Il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de convocation, il n'y a rien. Ça dit qu'il y a un manque de respect total. C'est comme si nous, on ne respecte pas, on est des moutons. On nous balance de société en société. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai une preuve. Aussitôt, j'ai écrit une lettre, un fax. Monsieur Corré, un contrat, ça se négocie. Et ensuite... Au lieu de se déplacer, ce n'est pas du tout normal de nous appeler au téléphone pour nous informer que vous êtes notre nouveau employeur. Mais néanmoins, on va se déplacer, venez vous voir. Le lendemain, je suis venu le voir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je l'ai mal pris, votre fax. Bon, j'en passe. Il veut me faire signer un contrat. Moi, je dis que c'est un contrat bidon. Parce que comment on peut faire un contrat? On te dit c'est 8,44 € de l'heure et on te spécifie le nombre de l'heure. Ça veut dire que si tu fais 200 heures, on te paye 8,44 € de l'heure. Je l'ai dit, moi, monsieur Corré, soit vous me faites un contrat de 151,67 € ou bien un contrat en temps partiel. Mais ils sont très malins. Vous savez, les petites boîtes de sécurité sont très malins. Ils sont très rusés. Non, on ne va pas faire de nombre d'heures. Ça dépend maintenant le nombre d'heures que vous faites. Après, on verra. Je l'ai dit, dans ce cas, moi, je ne signe pas. Et son comptable, M. Gaspard, en l'occurrence M. Gaspard, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Monsieur Lé, si vous ne signez pas votre contrat, vous ne serez pas payé au mois de février. Et je lui ai répondu, aussitôt, vous mentez, M. Gaspard, parce que vous ne me connaissez pas. Et donc, il y avait des tensions entre ce dernier sous-traité et moi. Donc, ils ont une dent contre moi, et voilà. Après, le gérant, M. Corré, il m'a appelé dans son bureau. Monsieur Lé, revenez un autre jour, on va négocier avec le contrat de nouveau. Je suis parti. Deux jours, trois jours, quatre jours après, j'ai appris à mon collègue, M. Gabi, qui travaille avec moi à Pantin. Monsieur Lé, vous avez entendu que ce dernier société voulait nous payer à 6,50 €. J'ai dit que c'est quoi ça, 6,50 €? Il me dit oui, il a appris qu'on va nous payer 6,50 €. Moi, quand on parle, je dis que ah non, moi, franchement, personnellement, je ne vais pas prendre 6,50 €. De toute façon, peut-être c'est vous qui allez prendre 6,50 €, mais pas moi. Il m'a dit, effectivement, ce sera ça.
Alors, peut-être pour continuer à raconter cette mobilisation, vous vous êtes mobilisé. Alors, vous avez eu, si j'ai bien compris, un coup de main d'un salarié ou de plusieurs salariés
non,
Fabio
non.
Lucci. Enfin, le GIR, après. Et puis, on a vu que la CGT était assez présente. Est-ce que vous avez.
Oui, d'après cette rassemblement, on a eu. Une aide venant de Fabio Lucci, c'est le syndicat CGT de Fabio Lucci, Porte de Pantin, qui nous a donné son coup de main. Et de par lui, c'est parti cette mobilisation de la part de CGT, et depuis lors, CGT est derrière nous. Donc nous sommes tous syndiqués, nous les agents, parce qu'il n'y a pas que Fabio Lucci Pantin qui est sorti. Il y a un agent de Belleville, il y a un agent aussi de Danières-Gennevilliers, il y a deux agents de Meaux, et un agent de Pontoise. Donc en ce moment, nous sommes au nombre de 9. Depuis le 27, on est sorti, ça fait 3 semaines. Et ce qui est énervant, Fabio Lucci, depuis le 27, n'a pas fait signe. N'a pas fait signe. Et aussi ASP. On a eu à négocier avec AMPS pour régulariser les salaires, pour qu'il appelle la préfecture pour régulariser aussi les situations des sans-papiers. Mais bof, on était tombé d'accord sur des principes comme quoi il va payer tout ce qui est salaire, il va appeler la préfecture et il va aussi faire les contrats en bonne et due forme et fournir aussi les fiches de paye. Mais comme par hasard, il nous avait donné rendez-vous vendredi dernier. On attendait, bof, on était croque comme tout. Et puis voilà, on s'était dit que c'est bon, quoi. Mais ouais, on reçoit un fax comme quoi que bof, y a le gars qui signe le chèque est tombé malade. Il est tombé malade, le comptable est tombé malade, donc il ne peut pas signer le chèque et il est disponible que le 22. Et il précise le jour de son disponibilité. Et depuis lors, mais basse, on ne voit rien. Voilà, donc c'est un truc vraiment qui dure, qu'ils ont laissé pourrir jusqu'à présent. Et peut-être ils ont leur raison. Mais nous, on ne va pas abdiquer. On ne va pas abdiquer parce que c'est nos droits. Il y a un agent de Belleville qui est là. Depuis décembre, il n'est pas payé. On fait le travail comme il faut. On fait beaucoup d'heures, 250 heures le mois. Et voilà, c'est des heures à payer. Donc, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher. On est très mobilisés. Et voilà, il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues nous rejoindre par peur. Par peur du fait qu'ils n'ont pas leurs papiers. Mais bof, voilà. Comme je venais de vous dire, c'est une nouvelle génération de sans-papiers qui sont prêts à se battre, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est à voir.
Alors, il faut peut-être préciser quelque chose, parce que tu évoquais, Edouard, tout à l'heure, cette loi du début de l'année. Je ne sais pas si dans le détail, mais elle permet, s'il y a une démarche positive, si j'ai bien compris, s'il y a une démarche de l'employeur qui dit bon, « moi, j'emploie ces gens et je lui fais un contrat de travail et tout », d'accéder à une régularisation. Théoriquement, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais bof, pour être plus précis, je passe la parole à mon collègue, M. Ley, qui est plus doué sur ça.
Alors, M. Ley.
Je ne pense pas. Ouais, c'est le circulaire de 7 janvier 2008. Donc, ce circulaire stipule un employeur. L'employeur peut faire une démarche auprès de la préfecture d'un de ses salariés sans papier pour lui demander la régularisation du sans-papier. Donc ça va dire que l'employeur s'engage à faire une promesse d'embauche à son salarié de sans-papier et il va monter le dossier et il se présente au niveau de la préfecture. Une fois monté à la préfecture, maintenant ça dépend maintenant de la préfecture, si la préfecture accepte le dossier ou pas, mais je pense que la préfecture acceptera le dossier. Si l'employeur met toutes les conditions favorables pour que le sans-papier ait son papier, donc je pense que ça n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la CGT qui est derrière ça, et la CGT qui est avec nous, c'était eux qui étaient avec le Buffalo Gris, la grande armée. Donc, eux, ils connaissent très bien ce qui se passe. C'est eux-mêmes qui filent même les tuyaux aux employeurs de dire « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, faire les démarches ». Donc, il n'y a pas un problème sur ça. L'employeur n'a... Au contraire, ce sera une bonne image pour cette société qui va faire ça. Mais ce qui est dommage, ce qui est douloureux, ce qui est ignoble et ce qui est vraiment lamentable, c'est ASP, en l'occurrence M. Ben Ali, M. Ben et M. Ali. Parce que jusqu'à présent, à l'heure actuelle où je vous parle, ils ne se sont même pas déplacés pour venir voir les agents. Et pourtant, c'est eux les donneurs. C'est eux qui, moi, quand je condamne ASP et je condamne aussi Fabio Lucci. Parce que Fabio Lucci, c'est eux qui donnent, qui payent. S'il s'avère que depuis le 27 janvier, on est toujours campé devant Fabio Lucci, Pantin, avec les banderoles CGT, nous réclamons nos salaires, nous réclamons la régularisation. Donc, pourtant, Mme César m'avait convoqué dans son bureau avec M. Karim Benkiram, le délégué personnel de Fabio Lucci, et ensuite Mme Jamila, secrétaire nationale de CGT nationale qui dépend de Marseille. Et pourtant, je l'avais précisé que Mme César, ça fait beaucoup plus de depuis le mois de février, on n'est pas payé. Certains d'entre nous ne sont pas payés depuis le mois de décembre. Et parmi nous aussi, il y en a des gens qui n'osent pas réclamer leur argent par crainte, par peur de perdre leur place parce qu'ils n'ont pas des papiers. Elle m'a dit personnellement que c'était scandaleux.
I'm about to Babylon ideology. You see me, I say, Rasta children now go embrace them false philosophy. So we moving at the Gideon, them a penny way. But tell them, say what? Them are done with enemy. You see me, I say, cause them now lead the people, them right. Keep the fire light. Blaze the fire through the day, through the night. Me see a generation just stop get exploit.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est donc toujours avec les grévistes de Fabio Lucci, même s'ils ne sont pas vraiment Fabio Lucci, qui sont avec nous. On discutait, Cédric, du rapport au syndicat.
Oui, parce que dans votre combat, on voit bien qu'il y avait deux combats. Il y avait le combat sur les salaires et puis il y a le combat sur les papiers. Et donc, on voit qu'il y a aussi d'autres combats en France qui se mènent sur ce terrain-là, sur lesquels on va revenir. Mais pour vous, la situation de départ, c'était d'abord les papiers ou c'était d'abord les salaires?
Non, au point de départ, c'était les problèmes de salaire. Parce que quand on nous a dit que c'est 6,50 € de l'heure, aussitôt, mes collègues et moi, on était parti voir FIPS, le dernier sous-traitant, dans leur bureau. Et il nous a confirmé, effectivement, c'est 6,50 € de l'heure. Et personnellement, c'était M. Kaba et M. Diaby et moi-même. On a dit, donc, dans ce cas, on ne va pas prendre les 6,50 €. Et quand on est sorti, on a appelé directement le donneur d'ordre, ASP. En l'occurrence, Mademoiselle Milena, c'est la secrétaire de M. Ben. Et quand on les a appelés, on a dit, ce dernier sous-traitant veut nous payer 6,50 € et on ne va pas accepter ces 6,50 €. On a été toujours payé 7,50 € net. Et il nous a confirmé, M. Ley, vous serez payé 7,50 € net. Je vous rappelle. Et jusqu'à présent, il nous a parlé après. Et le lendemain, le soir, mon collègue m'a appelé, M. Diaby, que demain, quand on va faire l'ouverture, on va partir en grève. Et c'était comme ça. Jeudi 27 mars, à 9h30, on est venu au magasin Fabio Lucci. Et à 10h, parce qu'on savait qu'à 10h, ouverture du magasin, et s'il n'y a pas d'agent de sécurité, c'est sûr qu'on va faire réagir le directeur du magasin. Il va appeler. Et c'est comme ça qu'on a fait. 10h, on est sorti, on était dehors. Le directeur du magasin a appelé directement ASP qu'il n'y a pas d'agent. Les agents de mon magasin sont en grève. Aussitôt, mon portable a sonné. Monsieur Lé, pourquoi vous êtes en grève? Parce qu'on n'est pas payé. On demande nos salaires. Et pas 6,50 €, 7,50 €. Mademoiselle Milena de ASP m'a confirmé. Avant 13h, vous serez payé. Donc, j'ai dit à un agent, allez bosser jusqu'à 13h. À 13h, je les appelle. Ils sont tous partis manger, déjeuner. J'ai dit à l'agent de sortir. Et aussitôt, 2 heures après, il y a tous les sous-traitants apparaissent. AMPS, GSP, FIPS. Et chacun veut régler le problème tout coûte que coûte parce que ASP les a menacés de perdre le contrat. Et c'est à partir de maintenant qu'il y avait mon ami, bon, c'est le délégué du personnel, M. Ben Kéram. Il a appelé ses collègues de CGT. Et les CGT, c'était comme ça, les CGT se sont débarqués tout de suite. Et quand ils se sont débarqués, ils ont pris la main, les choses en main. En disant maintenant, qu'est-ce qui se passe? On les a dit, il y en a des gens qui ne sont pas payés depuis le mois de décembre. Nous, on n'est pas payés depuis le mois de février et on est le 27. Et ils veulent nous payer 6,50 €. Un agent de CGT nous a dit, mais 6,50 € n'est pas SMIC. Comment vous pouvez accepter ça? Je l'ai dit, parmi nous, il y en a des gens qui ne peuvent pas réclamer leur argent par crainte parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et en ce moment-là, maintenant, CGT, ils ont dit maintenant, premier point, de payer les salaires immédiatement. Deuxième point, régularisation des sans-papiers parce que les employeurs savaient pertinemment qu'ils recrutaient des gens qui n'ont pas de papiers. Et pour ne pas cotiser, ne pas faire payer des charges, tout ça. Donc, CGT a dit maintenant, c'est, puisque c'est comme ça maintenant, vous allez engager à faire des contrats bon et uniforme et vous allez partir à la préfecture pour demander la régularisation des sans-papiers. Et depuis le 27, on a le soutien de la CGT et jusqu'à au jour, c'est la CGT qui est toujours derrière nous, qui nous demande de tenir bon. Et depuis ce jour-là, il y en a d'autres sociétés qui sont venues et qui sont parties en grève. C'est comme ça qu'il s'est commencé.
Alors, vous appuyez, parce qu'il y a un précédent avant vous sur cette mobilisation, non seulement pour les salaires, mais aussi pour l'obtention d'un titre de séjour. Il y a eu une mobilisation il y a quelques semaines au Buffalo Grill de la Grande Armée. Là, je me tourne vers Nicolas Jounin, qui, toi, tu y étais et tu as vu un petit peu ce qui se passait là-bas?
J'y étais un petit peu, hein, c'est la Grande Armée tout court, c'est pas un Buffalo Grill, c'est le restaurant s'appelle la Grande Armée.
D'accord.
Ça appartient à un groupe aussi. Ce que j'ai vu, c'était pas exactement la même chose, si j'ai bien compris, c'était puisqu'il n'y avait pas des cascades de sous-traitants, les gars étaient les cuisiniers étaient employés directement par le restaurant. D'après ce qui ressortait, l'employeur, bien qu'il niait, savait très bien que les cuisiniers en question étaient sans papier, puisqu'il y avait même eu un épisode où un type, à un moment, le patron avait découvert qu'il était sans papier, donc en fait, il lui avait demandé de ramener d'autres faux papiers, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, ce qui était frappant, et ce qui visiblement est le cas pour vous aussi, c'est qu'ils étaient là depuis des années. C'est-à-dire que c'était pas. Ils sont, d'un côté, ils sont jetables, ils sont taillables et corvéables à merci, effectivement. Ils sont jetables, mais on les jette pas parce qu'on en a besoin, parce que les cuisiniers, ils sont qualifiés, parce que voilà, ils ont un certain nombre de. Et il y avait une forme de fidélisation comme ça. Dans une situation super précaire, ils prenaient même, il y en avait, je ne sais pas si c'était le cas de tous, mais ils avaient des augmentations de salaire, et il y en avait qui avaient des salaires bon, qui étaient au-dessus du SMIC, hein, je ne dis pas que c'était la... mais c'était au-dessus du SMIC, ils pouvaient même prendre des vacances, c'est pas pour dire les sans-papiers ça coule douce, mais c'est pour dire à quel point ils sont intégrés déjà dans le salariat, que c'est déjà des travailleurs, et que même quand on utilise comme ça des gens qu'on exploite plus spécifiquement, les patrons sont bien obligés quand même de donner un petit quelque chose déjà. Et puis bah, là, vous êtes allé chercher un peu plus que ce petit quelque chose que de temps en temps, il veut bien octroyer.
Alors tu parlais des employeurs qui embauchent des gens alors qu'ils savent pertinemment que les gens sont pas tout à fait en situation régulière ou qui ferment les yeux sur des papiers douteux. Toi, tu as fait une étude sur le monde du bâtiment. Je dis ça parce que à Fabio Lucci, vous m'avez raconté un peu la même chose. Est-ce que tu peux raconter un peu ça, parce que c'est assez étonnant cette pratique de tout le monde ferme les yeux pour faire semblant de ne pas voir qu'il y a des problèmes de papier, quoi.
Mmh. Oui, bah, moi, ce qui m'a frappé, c'est 23,50 €, quoi. 23,50 €, Fabio Lucci paye son sous-traitant. Donc, il y a peut-être tout un tas de raisons, peut-être des détournements, en tout cas dans le bâtiment, c'est des genres de trucs qui se voient. Mais je pense que la raison aussi, c'est fichez-nous la paix. C'est vraiment, on achète une assurance avec le sous-traitant, c'est on achète une assurance employés des sans-papiers, nous, on ne veut pas le savoir et on s'en lave les mains. C'est vraiment le système de l'assurance. Et dans le bâtiment, c'est la même chose avec, pareil, donc moi, 7-30 sous-traitants, j'ai jamais vu ça. Dans le bâtiment, ça ne va pas très loin. Des fois, c'est juste l'entreprise Bouygues ou GTM qui va appeler l'agence d'intérim et l'agence d'intérim va fournir des sans-papiers. À la rigueur, il y aura un sous-traitant entre les deux et puis après l'agence d'intérim qui fournit les sans-papiers. Mais l'agence d'intérim, elle sert à ça, entre autres, à fournir des sans-papiers et donc à faire en sorte que cette illégalité soit externalisée. Et puis avec elle, tout un tas d'autres trucs, comme payer en dessous du SMIC, enfin 6,50 €, c'est pas le SMIC, dans le bâtiment, ça peut se retrouver aussi. Je sais pas comment vous, ils pouvaient vous licencier, mais dans le bâtiment, dans l'intérim du bâtiment, c'est on vous licencie du jour au lendemain.
C'est pareil.
Bon, voilà.
Mais c'est pareil.
Donc, toutes choses qui sont complètement illégales, et vous avez beau être sans papier, c'est ce que vous disait la CGT, c'est ce que vous disiez, vous avez les mêmes droits que tout le monde. À partir du moment où ils vous emploient, vous avez quand même les mêmes droits que tout le monde. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est pas une position morale, c'est juste que dans le droit, vous avez vraiment les mêmes droits que voilà, tout le monde. Or, ils ne respectent pas le droit, donc tout ça, en fait, ils sous-traitent, en même temps qu'ils sous-traitent la main-d'œuvre, ils sous-traitent les illégalités. Comme ça, ils s'en lavent les mains. Comme ça, Bouygues et Fabio Lucci, ils sont propres.
Parce que j'évoquais ça parce que quand on s'est vu pour préparer cette émission, vous m'avez raconté ça, c'est-à-dire que une partie des gens qui bossent avec vous ont été employés. L'employeur savait très bien que c'était pas la bonne personne.
Pertinemment, il savait que voilà, il y avait des sans-papiers parce que ça les arrangeait, mais aussi ça l'arrangeait aussi le sans-papiers. Pour un sans-papier de trouver un boulot, c'est pas facile. Ils trouvaient leur compte sur ça. Parce qu'un sans-papier, tu le payes 5 €, il ferme sa bouche. Tout ce qu'il a, c'est ça lui va pour se nourrir, pour espérer avoir mieux. Donc c'est pour ça que les sans-papiers sont là et être à l'affût pour être d'accord sur tout.
Comment réagissent les autres salariés de Fabio Lucci? Il y a beaucoup d'employés apparemment dans ce magasin. Quelle est leur réaction?
En fait, en ce qui concerne Fabio Lucci de Pantin, donc les salariés nous soutiennent. Bon, même s'ils ne se manifestent pas, ils nous soutiennent. À chaque fois, ils nous viennent dire courage. Ce que vous luttez, c'est normal. Vous êtes courageux, voilà. Et je ne citerai pas de nom, mais il y en a même qui sont même prêts pour sortir nous soutenir à la grève. Mais bon, je ne citerai pas de nom. Mais je sais qu'à grosso modo, la plupart des salariés de Fabio Lucci Panté nous soutiennent. Maintenant, ce qui se passe, moi, ce que j'accentue plus pour les salariés des sans-papiers, parce que les sans-papiers, je les comprends. Imagine quelqu'un qui cherche du boulot, il n'a pas de boulot. Il vient dans la sécurité. Il veut du boulot. On lui dit que bon, on vous paye 6 euros ou bien 4 euros. Parce que le jour où on lui paye 6,50 euros au bureau, j'ai un collègue qui se nomme Hippolyte, il fait dans tous les Fabio. Il m'a dit, monsieur Lé, je suis obligé de prendre 6,40 euros parce que je suis menacé de sortir de mon loyer. Et donc, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé mon loyer et je dois envoyer au pays, à mon fils, de l'argent pour ses scolarités. Et donc, je suis obligé de prendre cet argent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais j'étais obligé de prendre ça. Mais pourquoi je suis obligé de prendre? Parce que je n'ai pas le choix, je ne peux pas le dire, je ne peux pas aller à la police, je ne peux rien faire. Vous qui avez les papiers, M. Ley, ce qu'il m'a dit, et je sais que vous pouvez nous aider sur cette lance-là, aidez-nous. Je lui dis que ne vous inquiétez pas, je ne peux rien faire, mais je sais que ces gens-là, je ne vais pas les lâcher, parce que pour moi, c'est des criminels. Voir un sans-papier, l'exploiter, 5 euros, 6 euros, et lui dire, si tu ouvres ta bouche, ou bien si tu commences à râler, je te mets dehors. Franchement, pour parler, c'est des criminels. C'est ça qu'on appelle l'esclavage moderne. Maintenant, on est au 20e siècle, 21e siècle maintenant. L'esclavage a été aboli depuis 1865. Et on est à quelle année? 2008. Arrêtons. On ne doit rien à l'État. Au contraire, c'est l'État qui nous doit quelque chose. Parce que nous, on paye les charges, les taxes, tout. On paye des titres de transport. Les salaires, on y paye. On a des fiches de paye, on a tout. Ce qu'on nous demande, on demande seulement le bout de papier. C'est-à-dire que le séjour ou bien l'autorisation de travail. Donnez-nous le papier, s'il vous plaît. Donc, pour résumer le plus rapidement, nous on demande, premier point, la responsabilité engagée de Fabio Lucci. Il faut que Fabio Lucci s'engage à régler le problème. Parce que c'est eux qui sont les principaux. C'est eux qui devaient pousser à ASP de régler le problème. ASP aussi doit faire bouger aussi aux sous-traitants, c'est-à-dire que ces sous-traitants, de nous payer les salaires. Aujourd'hui, on est le 16. Il y en a certains d'entre nous qui n'ont pas eu le salaire du mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février. Nous, on n'a pas encore reçu le mois de mars. On nous a donné seulement un acompte du mois de février. Et franchement, parler, le point le plus important, payez-nous nos salaires parce qu'on a des charges à payer. Franchement, parler. Deuxième point, on demande aussi que la régularisation des sans-papiers. Il faut que l'employeur s'engage à faire des contrats bons et uniformes et s'engage à appeler, à contacter la préfecture. Puisque les sans-papiers se sont sortis dehors pour réclamer leurs droits. Mais c'est normal, tout travail mérite salaire. Même dans le code du travail, un sans-papier, quelqu'un qui est en situation irrégulière et qui travaille, l'employeur s'engage à le payer 6 mois minimum de salaire. L'employeur n'a pas demandé, le salarié n'a pas demandé, n'a pas allé voler, il a demandé de bosser. Donc on le paye, il a un droit. Et je pense que la France est un pays de droit. Donc je demande aussi que le soutien de toutes les bonnes volontés de venir nous soutenir. Et je pense que si avec ça, on va trouver une bonne solution et cette résolution.
Moi, je voulais revenir sur les aides qu'on a de Fabio Lucci. Parce que bah, depuis le début, c'est vrai que c'est des paroles. Ils nous disent « tenez bon ». Mais ce n'est pas ce que nous attendons d'eux. Parce qu'il y a d'autres syndicalistes qui sont dans Fabio Lucci. Et depuis le 27, il y a un seul syndiqué qu'on a vu. Monsieur Karim, et lui, depuis le début, il a lâché tout. Il ne travaille plus, il est avec nous, et parce qu'il est de CGT. Il y en a d'autres, mais on ne les voit pas. Ils peuvent peser comme tout syndicaliste. Syndiquer, c'est une merveille. Moi, je trouve dans le syndicalisme quelque chose que je n'ai jamais compris. Je voyais des grèves par-ci, par-là, mais je n'avais rien compris. Mais depuis que je suis syndiqué, je vois les résultats, quoi. Mais Fabio Lucci, il y en a. On se connaît depuis des années, mais quand même, ils continuent à travailler. Ils sont là tous les jours, ils travaillent. Ils nous laissent dehors dans le froid. Mais ce n'est pas une aide, ça. Allez, tenez bon, par-ci, par-là. Non, on n'attend pas de ça, de vous. Donc sortez, faites réagir le responsable, c'est ce que nous demandons de vous, quoi. Donc, c'est pas ça. Moi, je trouve que, voilà, c'est pas une aide de dire, voilà, tenez bon, on est avec vous. Non, vous n'êtes pas avec nous. Si vous êtes avec nous, sortez, donnez-nous vos mains. Et on fait le combat ensemble et on va gagner ensemble. Comme ça, on saura que vous êtes avec nous.
Fichier classé avec un code barre sur le dos. Je ne suis plus maître de mes pensées, plus maître de mes mots. Un clone de plus, rien de plus qu'un simple numéro. Et vaudrait mieux pas que je m'aventure à jouer les héros. La règle c'est obéir ou périr, suivre la ligne ou finir dans la ligne de mire. C'est la mort qui m'attend si je me rebelle. Les murs d'une prison si je me mets à penser par moi-même. Si l'histoire qu'on m'a écrite ne me convient pas, si je m'écarte du droit chemin, je sais ce qu'il adviendra de moi. Un plan au milieu d'une page ou une simple rature. Un dossier classé sans suite, sans vague, sans éclaboussure. Donc je crie ma liberté jusqu'à ce qu'ils m'enchaînent. Tant qu'ils n'auront pas mis la main sur moi, je ferai les miennes. Et peu importe qu'ils me brisent, qu'ils me tuent dans ma tête. Je suis un homme libre,
je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Je ne suis pas un numéro.
Mes mots ne craignent ni les frontières, ni les cachots.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Maître mes pensées, de mes mots. Je suis un homme libre.
J'ai vu ce passager bloquer le trafic aérien qui empêchait les flics français de taper sur ce malien. Moi qui ai grandi sous les pistolets laser, j'ai vu Virginie paralysée au pistolet taser. Et j'ai vu des marmots partir à la guerre au Burundi, Congo, enrôlés par des militaires. Et j'ai vu aussi la lapidation des femmes afghanes dans mon pays, le saccage d'écoles juives ou musulmanes. L'Afrique subsaharienne morte sous le sida, des enfants qui meurent du palu. Et moi, et moi, et moi, et moi, je me demande à quoi ça me servirait de me sentir libre si c'est pour garder les autres crevés. La vie m'a dit, mon vieux, fais ta thune, prends pas de risque. La vérité, si tu l'as dit, personne n'achète ton disque. Alors des fois, je lui réponds que moi, des fois, j'y crois. Et qu'un jour, tous ensemble, on y arrivera.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Je ne suis pas un numéro.
Mes mots ne craignent ni les frontières, ni les cachots.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Je suis un homme libre.
Je marche pas la matraque, autant faille au gourdin. Je suis libre de chanter ce que j'écris dans mon calepin. Si j'ai une bouche, c'est pour mieux te parler, mon enfant. Si j'ai un micro, c'est pour mieux te percer les tympans. C'est juste un réflexe de dignité, d'autodéfense. C'est une histoire de survie, alors je pratique la résistance. Ici, le pays, les lois, les mœurs sont racistes. Enrobé discours fraternel, humaniste. J'ai pas beaucoup de respect pour nos hommes politiques. Pour ça, alors je garde l'esprit critique, j'ouvre ma bouche, crache mon fiel sur les imposteurs, sur les hypocrites conservateurs, super menteurs. J'en place une pour les tolards de France et de Navarre, ceux qui vivent le cauchemar, l'humiliation au mitard, privé d'identité, d'ASP, d'humanité. Le système carcéral bafoue les droits en toute impunité. Je suis libre de m'indigner, de prendre position, d'affirmer mes convictions, mes opinions. C'est mon empreinte, mon tampon, ma signature, ma marque, mon sceau, ma trace de morsure.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Je ne suis pas un numéro.
Mes mots ne craignent ni les frontières, ni les cachots.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Maître mes pensées de mes mots. Je suis un homme libre. Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Voilà, on est donc toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front et donc on est avec autour de la table les grévistes de Fabio Lucci, Leipap, Diaby, Edouard et Alassane. Et puis il y a également à nos côtés Nicolas ce soir et on discutait de ce qui est en train de se passer parce qu'au-delà du mouvement qui a lieu et dont on parle depuis le début de cette émission, il y a un certain nombre d'autres établissements qui emploient des travailleurs sans papiers qui sont mobilisés depuis hier et c'est un mouvement assez exceptionnel de mobilisation de travailleurs sans papiers de travailleurs qui voilà. Donc peut-être je sais que tu as suivi un petit peu parce que vraiment là il se passe quelque chose de très étonnant.
C'est à la fois énorme je pense et inédit. Bon, faut replacer dans le contexte de chasse aux sans-papiers qui est aussi énorme et inédite, quoi. 25 000 expulsions en 2007 alors qu'on était à 10 000 en 2003, ce qui était déjà pas supportable, mais on voit le chemin, quoi. Enfin, la chasse aux sans-papiers partout et des licenciements massifs aussi de sans-papiers à cause de contrôles de plus en plus fréquents sur les lieux de travail et puis bon, des syndicats, en l'occurrence la CGT mais aussi Sud, la CNT, etc. Qui se saisissent davantage de la question sans-papiers, c'est une double bataille, une bataille sur, d'un côté, vous avez les mêmes droits que tout le monde, et de l'autre, à travers le travail, on va tenter une régularisation. Y a eu d'autres mouvements avant sur l'école. À partir de l'école, on va tenter une régularisation à partir des enfants. C'était Réseau Éducation Sans Frontières qui continue. Je pense que, bon, j'ai parlé tout à l'heure du Réseau Université Sans Frontières. Pareil, on éclaire les sans-papiers comme étudiants. Il y en a un certain nombre. La plupart, d'ailleurs, des étudiants sans-papiers sont travailleurs, donc ils peuvent se retrouver dans toutes les deux campagnes.
Je suis sûr qu'il y en a qui travaillent à Fabio Lucci.
C'est probable. Et donc là, quelque chose, vraiment, enfin moi je ne crois pas que ça ait jamais existé en France, c'est 300 sans-papiers qui se mettent en grève en même temps, vous avec un peu d'avance, et donc soutenu quand même par la plus grosse confédération syndicale sur une quinzaine de sites différents. C'est surtout, d'après ce que j'ai vu, le nettoyage et surtout la restauration. Mmh. Alors, ça peut s'expliquer, je pense, parce que la restauration, les gens, ils restent au même endroit. Tandis que le nettoyage et a fortiori le bâtiment, ça tourne. On va d'un chantier à l'autre. Il y a encore plus d'employeurs dispersés. Tandis que quand on est, comme vous, agent de sécurité dans un même magasin ou cuisinier ou plongeur dans un resto, on a l'habitude de travailler avec les gens. Donc, au bout d'un, on peut organiser un truc. C'est vrai que c'est plus dur dans le bâtiment ou d'autres secteurs. Et là, je voudrais juste mettre l'accent aussi sur un truc, c'est que dans ce mouvement, moi, je trouve ça fascinant. Je suis vraiment super admiratif du courage des 300 personnes qui ont commencé et qui vont, je pense, redonner du courage à d'autres milliers pour continuer. Après, ces personnes, d'après ce que j'ai vu, c'est que des mecs. Et ça s'explique aussi, parce qu'il y a des femmes sans papier, nombreuses, qui travaillent, mais qui travaillent beaucoup aussi dans des domiciles, comme aide à domicile, comme femmes de ménage, comme des trucs comme ça, pour qui c'est beaucoup plus difficile de s'organiser, de lutter, d'obtenir une régularisation par le travail. Mais donc, il ne faut pas l'oublier, il faut aussi réfléchir aux manières d'organiser ça.
Alors, il y a une mobilisation en particulier dans la chaîne de restaurants Chez Papa, où on peut aller manger une improbable cuisine du Sud-Ouest, dont le point de rassemblement, c'est 206 rue Lafayette. Alors, je sais que vous avez été en contact avec eux, juste quand moi j'y suis passé cet après-midi, et ils disaient qu'ils avaient 5 ou 6 personnes qui, dans la journée, étaient venus dire « moi je suis travailleur sans papier, est-ce que… » Enfin, il y a aussi… ils étaient surpris que ça déclenche comme ça des témoignages et des gens qui souhaitaient s'inscrire dans une telle mobilisation. Mais je sais que vous avez participé à élaborer ce mouvement qui a débuté hier. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment tout ça s'est mis en place ?
Ouais, comme vous venez de dire là, pour les gars qui passent de temps en temps nous demander mais pourquoi vous avez fait ça, mais comment ça se fait que vous osez tout ça, parce que eux, ils n'ont pas de papier, ils travaillent en cachette et ils ne veulent pas se dévoiler. Ce truc là, c'est venu comme ça avec l'aide de la CGT. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 200 grévistes qui viennent de nouveau, et ces 200, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il y a beaucoup plus de travailleurs sans papier dans ce pays-là. Donc, c'est un truc à faire valoir. À faire valoir, et il faut ressortir. Il faut sortir de ces trous-là. Parce qu'à force de se cacher, on risque de perdre tout. Donc, mieux vaut sortir, réclamer leurs droits. Je vois que ce n'est pas facile. Parce que je parle, mais voilà, moi, je ne peux pas être dans leurs états parce que là, je suis régularisé et tout ça. Donc, je me dis que pourquoi ils ne sortent pas ? Mais au moins, eux, ils savent pourquoi. Ils ont peur du fait qu'ils peuvent être expulsés du jour au lendemain. C'est normal. Mais tant que tu ne sortes pas pour demander tes droits, ça ne sera pas possible. Quand tu ne sors pas de cette clandestinité, c'est pas bien. Et en plus, moi, ce qui m'étonne, pourquoi faire une liste de de travail autorisé aux sans-papiers africains, aux sans-papiers de l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Pourquoi ces 150 métiers, la liste des 150 métiers ? C'est ça que je n'ai pas compris. Un métier, c'est un métier. Que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans le gardiennage, dans le nettoyage, c'est un métier. Donc pourquoi se limiter au fait que c'est des métiers, c'est une liste de métiers à pouvoir ? Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut débattre et essayer d'éradiquer ça avec cette politique. Je pense que c'est mal parti, c'est la politique du gouvernement. Parce que c'est eux qui ont établi cette liste de 150 métiers autorisés à temps, à quel genre de personne ou pas. Mais bof, du fait que les gens ne peuvent pas sortir, c'est tout simplement qu'ils ont peur.
Parce que, juste pour préciser ce que tu évoques, c'est ce que dénoncent les associations, les syndicats, les partis de gauche depuis quelques années, à travers en particulier une coordination qui s'appelle UNI contre une immigration jetable, et qui dénonce cette idée qu'il y aurait une immigration choisie, que seuls les gens qui viendraient travailler dans des secteurs où il y a un besoin de main-d'œuvre qui a été décidé par l'État pourraient rentrer. Donc, par exemple, si on manque d'électriciens, bah, les électriciens pourraient venir, mais quelqu'un qui a une autre profession qui n'est pas sur cette liste-là ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que c'est une vision totalement utilitariste de l'immigration. Et voilà, effectivement, cette liste porte
sur ça. Mais bof, moi, je ne vois pas vraiment l'utilité. Je ne vois pas vraiment l'utilité du moment où, voilà, c'est cette immigration choisie qu'ils veulent mettre en place. Mais sachez aussi que les pays d'origine ont besoin de main-d'œuvre. Et les gens qui travaillent ici, s'ils arrivent à trouver du travail dans ces boulots-là, dans ces métiers-là, c'est parce que il y a vraiment besoin de main-d'œuvre sur ces métiers-là. Et une personne qui vient de son pays d'origine, qui laisse tout, sa famille, sa terre natale, ses enfants et tout ça, pour venir chercher du travail. Il trouve du travail. Et vous le disiez que ce travail-là n'est pas adéquat à ton pays d'origine. Mais c'est comment ? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Mais bof. Je ne sais pas, c'est le gouvernement, c'est la politique de monsieur le ministre de l'intégration, comme on dit. Et voilà, c'est en ce moment ce qui est. Il faut s'y plier, comme on dit. Mais bon, il faut se battre quand même, il ne faut pas lâcher. Un jour, ça pourrait changer de camp.
Il y a intérêt. Leipap, toi, tu nous disais tout à l'heure que tu avais participé tu avais rencontré les autres salariés qui se sont mis en grève, ou en tout cas, tu as participé à l'organisation de ces jours-là. Est-ce que tu peux dire deux mots sur comment ça s'est organisé ?
Oui, c'était la réunion de lundi passé, c'était lundi dernier. Donc, c'était à la CGT de Montreuil. Donc, il y avait tous les salariés sans papier qui étaient là-bas. Donc, et parmi cette liste-là, il y avait tout cette liste, il y avait des représentants qui étaient là-bas. Et donc, ils étaient prêts à mener la grève dès mardi, ça veut dire hier. Donc, eux, ils étaient tellement contents de nous. Ça veut dire que Fabio Lucci, nous qui sommes sortis depuis le 27 mars, ils ont dit que nous, on est vraiment courageux de fait qu'on n'est pas en grève. Et eux, ils ont dit que donc, puisque eux, ils se sont sortis, et il y avait des sans-papiers, et je les ai dit, parmi nous, les 9, dont les 7 sont des sans-papiers, et tout le temps, ils sont devant Fabio Lucci. Pantin, il y a les RG qui passent tout le temps là-bas, donc tout ça, mais nous, on avait toujours la protection. Quand je dis la protection de la CGT, bon, quand on voit la CGT, donc ça nous donne encore le courage de mener cette bataille. Et donc, eux, ils se sont dit, donc, pourquoi pas eux aussi. Il y avait des gens qui étaient sur le nettoyage, tout, chez papa, tout. Ils ont dit que dans ce cas, eux, maintenant, ils vont occuper même leurs locaux. Ça veut dire que leur lieu de travail, c'était mardi. Donc, hier, je ne sais pas si vous avez écouté les informations sur tout ça. Parmi dans toutes ces listes-là, ils étaient partis en grève et maintenant, c'est parti pour la grève. Maintenant, ce sera maintenant une raison politique. Il faut que l'État bouge. Comment l'État bouge ? Il faut que l'État donne l'ordre maintenant au niveau des préfectures qu'on régularise les sans-papiers. Et une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que si on regrade les sans-papiers, l'État va gagner. Tout salarié qui sera cotisé, qui aura une fiche de paye, il y aura des cotisations, tout ça, les prestations, tout ça. Donc l'État va gagner. Mais si une régulation, parce que quel que soit Alpha, si l'État refuse de régulation, il y aura toujours des sans-papiers qui vont travailler parce qu'ils sont obligés de travailler. Parce qu'ils sont obligés de travailler. Et ça arrange les employeurs. Donc l'État doit combattre ça. Comment le combattre? Régulation les sans-papiers. Et quand les sans-papiers seront régulation, maintenant l'État va gagner. Parce que les sans-papiers vont payer des charges. Ils vont payer les taxes, tout et tout. Je vous donne l'exemple de l'Italie. Ils ont régularisé plus de milliers de personnes. Aussi, l'Espagne, ils ont régularisé plus de milliers de personnes. Pourquoi pas Sarkozy ne veut pas régulariser les sans-papiers? Alors que la France, c'est eux, c'est le Mali, le Sénégal. La France, c'est voilà, nous, on est les colonisateurs de la France. Donc, pourquoi?
Nicolas.
Oui, je voulais juste dire deux choses par rapport à ce que tu dis. Malheureusement, je pense que le fait que les gens soient sans papier, ça rapporte déjà à l'État français. Je veux dire, vous payez déjà des impôts. Le plus gros impôt en France, c'est la TVA. Et vous le payez à chaque fois que vous achetez votre baguette. Les cotisations sociales, un certain nombre d'entre vous, vous les payez déjà. Et par contre, vous n'avez pas le droit aux prestations sociales depuis 1993, depuis une loi Pasqua, vous n'avez pas le droit de les toucher. Il faut passer par l'aide médicale d'État, qui est un dispositif dérogatoire et où c'est limité. Un certain nombre d'entre vous, vous payez l'impôt sur le revenu. Bref, hein, vous rapportez déjà à l'État français. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes, on vous fait le procès de non-intégration, je ne sais pas quoi. Vous êtes déjà intégré, vous rapportez déjà. Et je pense que ce qu'il faut ce sur quoi il faut mettre l'accent, au-delà du fait que peut-être ça rapporterait à l'État, mais à la limite, je dirais ici, on s'en fout. Ce qui compte, c'est votre droit juste à être là et du fait que vous êtes déjà exploité et employé par des patrons ici. L'autre chose que je voulais dire, c'était juste mettre en garde sur cette circulaire, parce qu'il y a un certain nombre de sans-papiers, cette circulaire de janvier 2008, qui croit que du coup, c'est automatique, il suffit que le patron y soit d'accord et youpla, on va être régularisé. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est bien précisé dans la circulaire que c'est de manière exceptionnelle. Donc, comme pour tout ce qui est du droit des étrangers, c'est la préfecture qui décide de manière complètement arbitraire. Et puis, en plus, c'est une procédure complètement féodale où on dépend d'un patron, quoi. C'est même pas pour soi-même. C'est parce qu'un patron a bien décidé de vous dire oui, ok, on va essayer de vous régulariser. Donc, je pense que c'est que par le rapport de force que cette circulaire ira dans le sens des sans-papiers.
Il vaut mieux avoir fait une grève et avoir un mouvement derrière soi avant d'aller à la préfecture, en gros, c'est ça.
Et j'ajouterais aussi, c'est tout simple, l'État a toujours des problèmes des retraités, leur cotisation. Mais régler les problèmes des sans-papiers, ils vont cotiser pour les retraités. C'est facile. Régler les problèmes, il y a des milliers de sans-papiers qui sont là, qui travaillent. S'ils sont régularisés, ils vont cotiser pour les retraités. Ils ont des problèmes pour payer leur cotisation des retraités. Ils n'ont qu'à régulariser les sans-papiers. Et dans ce cas, les sans-papiers vont cotiser. Et donc, il n'y aura plus de problèmes de retraités. Ils vont payer les retraités. Ils ont toujours des problèmes sur ça. Ils n'ont qu'à régler ce problème-là.
Et bien sûr. Et s'ils ne sont pas régularisés, on verra tout le temps les patrons voyous qui vont les utiliser à profit, gagner beaucoup plus d'argent. Et toujours, les sans-papiers seront dans la merde.
Alors ce que tu disais, Pape Ndiaye, sur les retraites, c'est exactement ce qu'a dit un rapport, je crois que c'était de l'OCDE il y a 2 ou 3 ans, qui disait qu'en Europe, dans l'Union européenne, si jamais on maintenait comme ça une fermeture des frontières, l'ensemble des caisses de retraite et des régimes de retraite par répartition étaient mis en péril parce que la natalité suffisait pas
à... Oui, mais est-ce qu'un gouvernement de droite libéral qui veut privatiser les retraites se soucie justement, ça profite complètement à leur philosophie
de... Oui, mais le gouvernement de droite libéral n'est pas une fatalité.
Oui, d'accord, mais aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à régulariser les sans-papiers. Ça ne profite pas à leurs intérêts, du moins à les intérêts qu'ils défendent.
Ouais, enfin, ceci dit, quand il y a des mobilisations, il y a un moment donné, tout est dans le rapport de force. Alors, parle dans le micro si tu veux bien. Diaby, on t'a pas entendu, vas-y, parle dans le micro. Non, lui. D'accord. Donc, c'était Diaby, peut-être l'émission tire vers sa fin. Cédric, tu voulais dire quand même quelques mots?
Juste un petit mot pour dire qu'on peut aussi intervenir, bon, évidemment en créant une section syndicale dans son propre lieu de travail, puisqu'on voit que le syndicat, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux pour se mobiliser collectivement, quoi. Et puis par ailleurs, s'intéresser évidemment au sort des sous-traités qu'on rencontre sur nos lieux de travail, qui sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on peut l'imaginer. On peut s'intéresser à leur manière dont ils sont payés, etc. On a le droit de le faire aussi. Et puis pour vous, concrètement aussi, on peut passer devant chez Fabio Lucci, où vous êtes, au 204, quelque chose comme ça.
Au 204, avenue Jean Jaurès.
Voilà, métro-porte de Pantin.
Porte de Pantin.
Et donc, ça montre aussi, ça fait pression sur Fabio Lucci, montrer que vous n'êtes pas isolé, on peut comprendre mieux votre combat, on peut signer des pétitions qui vous soutiennent. Et également verser dans la caisse de grève, puisque c'est le nerf de la guerre. Pour pouvoir mener un combat long, il faut verser absolument pour vous permettre de tenir ce combat.
Parce qu'on se souvient d'un combat qu'on avait beaucoup suivi dans cette émission, celui des McDo de Strasbourg-Saint-Denis, qui ont réussi à tenir un bras de fer très long, puisque ça a duré un an quasiment face à la direction de McDo, mais cette grève n'a pu tenir et n'a pu aboutir à une quasi-victoire que parce qu'il y a eu une très très forte solidarité et que à la fin du mois les copains de salariés de McDo avaient quelque chose à manger et que s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, il n'y a pas la grève est intenable, quoi. Donc voilà. Donc on vous remercie d'être venu et de nous avoir expliqué comment relancer la croissance par la régularisation des sans-papiers.
C'est très important.
Voilà, donc l'IPAB, Diaby, Edouard et Alassane, merci beaucoup, bon courage. Alors donc, on ne vous dit pas tenez bon, puisqu'on a compris que ce n'était pas tout à fait...
C'était pas la bienvenue, tenez bon. Il faut être là.
Et puis, il y avait aussi à nos côtés ce soir Nicolas Jounin, à qui on avait proposé de venir nous rejoindre, qu'on avait invité ce soir, parce qu'il a fait une étude sur les salariés du bâtiment où on voyait beaucoup de proximité dans le sort qui était réservé aux travailleurs sans papier, travailleurs immigrés dans ce secteur-là. Et c'est une manière aussi d'ouvrir un petit peu le champ. Voilà, et d'ailleurs cette superbe étude a été publiée Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment. Ça vient d'être publié il y a quelques semaines aux éditions La Découverte et ça coûte 23 euros. Et voilà. Donc, mais c'est pas comme ça. Je sais que tu gagnes quasiment rien sur ce livre, donc c'est pour la gloire que tu l'as publié.
C'est comme une heure de travail à Fabio Lucci.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïla, laïla, yeah.
Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et ben voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles loin du front. Donc ce soir, on a parlé des sans-papiers. Et la semaine prochaine, Cédric, je crois qu'on reste à peu près sur le même sujet puisqu'on change juste de pays.
On recevra Sébastien Chauvin qui viendra nous parler des luttes des sans-papiers aux États-Unis et également de la mobilisation de la main-d'œuvre journalière, notamment sur les sans-papiers aux États-Unis.
Voilà, alors ce soir, autour des micros, autour des boutons, il y avait donc toute l'équipe des Oreilles loin du front. Il y avait Alex, il y avait Jérémy qui lui demande que la responsabilité de Fabio Lucci soit engagée. Il y avait Juliette qui, elle, demande le paiement du salaire dans son intégralité. Il y avait Cédric qui demande la régularisation de tous les sans-papiers. Et puis, il y avait Guillaume qui s'élève contre une société définitivement trop sécuritaire. On se retrouve la semaine prochaine. Donc pour une nouvelle édition des Oreilles loin du front. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Echo du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.